Imaginez que vous êtes tranquillement à la maison, bien au chaud, devant un petit feu de cheminée, on sonne à la porte. Vous allez ouvrir et puis il y a un notaire qui se présente et qui vous dit, voilà, dans ma clientèle, depuis plusieurs générations, j'ai un homme de bien qui a des richesses inestimables et qui est parti et qui a laissé un testament. Et je viens vous inviter parce que vous êtes concerné par ce testament. Et je viens vous inviter à l'ouverture du testament. Et là, j'imagine, vous dites, laissez-moi tranquille, moi je suis bien au chaud, je suis tranquille, j'ai rien demandé à personne. Je ne sais pas si on serait beaucoup à réagir comme ça. Je pense qu'on dirait, oui, attendez, je regarde mon agenda, cet après-midi, c'est possible? Dieu nous a laissé un testament, à chacun en particulier, on est tous concernés par ce testament. Et ce que je vous invite ce matin, c'est que on puisse l'ouvrir pour regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, on ne va pas tout étudier ce qu'il y a dans ce testament, mais on va regarder à la lumière de ce que dit la Bible, ce qu'il est dit sur le baptême. Pour plusieurs, vous êtes peut-être là pour la première fois ou une des premières fois et vous dites, qu'est-ce que c'est encore que ce baptême-là? C'est une nouvelle mode, c'est... Donc on va essayer simplement, au regard de la Bible, qui doit être le fondement de la foi chrétienne, de prendre quelques textes qui expliquent ce qu'est le baptême. Quand on apprend à conduire, la première chose qu'on nous apprend, avant même de conduire, c'est le code de la route. Alors, on essaye de l'appliquer pendant la phase d'apprentissage, parce que là, de toute façon, c'est qu'il y a l'examen, que si on ne respecte pas le code, on va être calé. Et puis, une fois qu'on conduit, ben, on essaye quand même de le respecter. Si moi, un matin en me levant, je vous dis, tiens, ce code de la route qu'on te fait ne me convient pas. Moi, je trouve que c'est plus pratique de rouler à gauche plutôt qu'à droite. Je trouve que l'histoire des feux rouges, des feux verts, c'est quand même pas terrible. Moi, et que je commence à faire mon propre code, ça risque de très mal se passer. Et je pense que la foi chrétienne, elle doit être basée sur un code qui est unique, qui doit être le même pour tout le monde. C'est ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Et je souhaiterais qu'on puisse prendre quelques passages ce matin. L'apôtre Paul écrivait à Timothée, « Toute l'Écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, elle est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors je fais juste une toute petite parenthèse. Si vous êtes là pour la première fois, une des premières fois, et que vous n'avez pas de Bible, on se fera un plaisir à la fin de ce culte, de vous offrir une Bible. Il y a Tony et Laure, je vais juste vous demander de vous lever, voilà, comme ça vous pouvez bien les identifier. Ils seront dans l'accueil près de la banque, et si vous souhaitez une Bible, ils vous en remettront, ils vous expliqueront comment la lire, qu'est-ce que la Bible, comment elle est faite, mais ne repartez pas sans le code de la route. Alors, on va essayer de prendre plusieurs passages. On ne peut pas baser une doctrine sur un texte qu'on sortirait et puis sur lequel on construirait notre manière de penser, d'agir, en se disant ben, « Tiens, ça m'intéresse bien, je vais prendre ça et puis je me base là-dessus. » Donc, on va essayer de prendre plusieurs textes dans l'échange qu'on va avoir ce matin. Le premier se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23 et au verset 32. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 32. Pour vous donner un petit peu le contexte, Jésus a été trahi par Judas, il est arrêté par la foule et les responsables religieux de l'époque qui viennent le chercher. Et puis on le fait comparaître devant Pilate. Pilate était le gouverneur de la province de Judée, mais quand il a vu Jésus, il l'a interrogé et il n'a rien trouvé de coupable en Jésus. Et manière un petit peu de se défiler, il a appris que Jésus n'était pas de Judée, mais de Galilée. Donc il a dit, de toute façon, moi je suis gouverneur de la Judée, donc ça ne me regarde pas. Il l'a renvoyé à Hérode, qui avait lui en charge la province de Galilée. Hérode, à son tour, interroge Jésus, ne trouve rien de coupable, et comme il ne sait pas quoi en faire, il le renvoie à Pilate. J'allais dire le courage politique, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. À l'époque, quand il y avait des situations un peu embarrassantes, ben non, moi je trouve pas que non, il n'y a rien de mal, ben, je ne sais pas quoi en faire, hop, je repasse. Bon. Pilate ne sachant que faire, demande l'avis aux responsables religieux qui l'avaient arrêté, aux magistrats, au peuple, et le peuple crie « crucifie-le, crucifie-le », et il cède à la pression. Et Jésus est alors amené vers le mont Golgotha, à l'extérieur de la ville, pour être crucifié. Et nous lisons donc au verset 32 du chapitre 23, « On conduisait en même temps que Jésus deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est probablement la première personne qui est entrée dans le paradis en même temps que Jésus. Jésus est rentré un tout petit peu plus tôt parce qu'il nous est dit, si vous lisez l'évangile, qu'il est mort assez rapidement. Mais je pense que ce malfaiteur qui était là crucifié avec lui et à qui Christ a accordé le pardon est certainement la deuxième personne qui est rentrée juste après Jésus. Alors, un des premiers points qu'on peut, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec le baptême, si, ça a à voir. C'est que le premier point qu'on peut en tirer, c'est que le baptême n'ôte pas les péchés, ne sauve pas. On a ici le cas typique et je pense qu'on aurait pu difficilement prendre plus qu'un criminel. Comment un criminel a-t-il pu entrer au paradis sans être baptisé? Tout simplement parce qu'on l'a lu, il a reconnu en Jésus le Christ, le Fils de Dieu venu sur terre pour sauver les pécheurs tels que lui. Et dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, on peut lire un verset que les chrétiens connaissent bien, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé l'humanité, Dieu a tellement aimé chacun de nous, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus, en son œuvre sur la croix, ne périt pas, mais a la vie éternelle. » Et puis l'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 4, il dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et un peu plus loin, au verset 8, il dira ceci, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la foi en Christ et par sa grâce. » Alors oui, notre péché nous a séparés de Dieu et le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, ça n'est pas en se faisant baptiser. On l'a vu dans ce premier texte, on va en voir d'autres. Le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, c'est d'abord de reconnaître notre situation de pécheur devant lui. Ensuite, c'est reconnaître que de nos propres forces, on ne peut pas ôter notre péché. Et seule la mort de Jésus sur la croix a le pouvoir de nous libérer de ce péché. Et puis, la conséquence, c'est de demander pardon à Dieu et d'accepter la grâce gratuite qu'il nous accorde. Alors vous allez me dire, ben, si le baptême ne sauve pas, quel en est le sens? Quand doit-il intervenir? Pourquoi faut-il se faire baptiser? Et je vous propose qu'on voit un deuxième texte. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 37... Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, et avant d'être enlevé, il se manifeste aux apôtres et leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que Dieu leur a promis, la plénitude, le baptême dans le Saint-Esprit. Et à cette époque-là, c'était la fête de la moisson, et à cette occasion, les hommes pieux de toute nation étaient venus à Jérusalem pour célébrer cette fête. Donc il y avait vraiment toutes les nations qui étaient représentées dans cette ville. Les apôtres de Jésus étaient réunis à Jérusalem avec la mère de Jésus, ses frères, d'autres disciples. Ils étaient environ 120 personnes rassemblées. Et tout à coup, il vient du ciel, comme le bruit d'un vent impétueux, comme un bruit de tempête. Ils se mettent tous à parler dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Au bruit qu'il a lieu, la foule accourt, elle est confondue. Elle ne comprend pas parce qu'elle entend ces personnes parler dans leur propre langue maternelle sans qu'ils ne l'aient jamais apprise. Il y avait toutes les langues qui étaient là, toutes les nations. Elles se disent, mais comment ces personnes peuvent parler des merveilles de Dieu dans nos langues alors que ça n'est pas leur langue maternelle? Et alors l'apôtre Pierre, qui était là, prend la parole et leur annonce à partir des textes anciens la signification de ce qui vient de se passer. Et puis il leur explique que Jésus qui a été crucifié, qui a été mis au tombeau, qui est ressuscité, qui a été enlevé, était le Christ, le Messie que le peuple d'Israël attendait. Et il nous est dit, donc au chapitre 2 des Actes des Apôtres, au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. » Il y a eu trois étapes. La première, ils eurent le cœur vivement touché. La parole de Pierre basée sur les écrits, sur la Bible, sur notamment le passage d'Ésaïe qui annonçait la venue de Christ, le passage de l'Ancien Testament qui annonçait le baptême dans le Saint-Esprit, ça a touché leur cœur, ils eurent le cœur vivement touché. Et je dirais, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on peut avoir le cœur touché en entendant un témoignage, en venant dans une réunion évangélique, en lisant la Bible, mais ça ne suffit pas. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, mais que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous, repentez-vous. Et troisième étape, que chacun soit baptisé. Donc on voit qu'il y a une chronologie, d'abord la repentance et ensuite le baptême. Et si on va quelques versets plus loin, il nous est dit au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de repentance qui était annoncée par Pierre, furent baptisés. » Ils acceptèrent la parole et ensuite ils furent baptisés. On a d'autres situations, je ne les citerai pas toutes, mais si vous lisez dans les Actes des Apôtres notamment, il y a beaucoup de situations de baptême. Au chapitre 8, au verset 12, il s'agit là de l'évangéliste Philippe. « Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Quand ils eurent cru, hommes et femmes se firent baptiser. Au chapitre 18, toujours des Actes des Apôtres, au verset 8, « Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi. » Et furent baptisés. Ils crurent et furent baptisés. Et puis on a encore un dernier exemple que je prendrai dans ce passage-là, toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, au verset 34. Il y a un eunuque éthiopien qui était ministre de la reine d'Éthiopie et il était venu à Jérusalem pour adorer. Et puis il s'en retourne à bord de son char et il lit les écrits du prophète Ésaïe, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Et le Saint-Esprit pousse Philippe, l'évangéliste, à aller à sa rencontre pour lui expliquer le récit. Il nous est dit donc au verset 8, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle, littéralement, l'évangile. Philippe lui annonça l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Alors Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. On retrouve, vous le voyez, au travers ces textes, toujours la même chronologie, accepter la repentance, croire à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, être baptisé. Alors cela nous amène au sens du baptême. L'apôtre Pierre écrit dans sa première épître au chapitre 3, au verset 1, « La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Il nous est dit ici que le baptême n'a aucune vertu de purification. Bien évidemment, ce n'est pas un bain qu'on prend quand on a transpiré toute la journée et qu'on veut se laver. Ce n'est pas la purification, le baptême n'est pas la purification du corps. Ça n'est pas la purification de l'âme ni de l'esprit. Il nous est dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Peut-on avoir une bonne conscience envers Dieu si on n'a pas la conviction que notre péché a été effacé ? L'engagement d'une bonne conscience. Le Seigneur a mis dans le cœur de chacun, dès l'enfance, la conscience du bien et du mal, la conscience du péché. Et il nous est dit ici que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et pour avoir une bonne conscience envers Dieu, il faut être passé par la repentance, avoir accepté que Jésus-Christ vienne ôter le péché et avoir cette conviction que notre péché est effacé. Alors Pierre fait référence ici au temps de Noé, qui a été sauvé du déluge grâce à une arche qu'il avait construite. Et quand on va dans ce passage-là, dans la Genèse, au chapitre 6, au verset 17, Dieu parle à Noé, lui dit ceci, « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » C'était une époque où les gens, du matin au soir, ne pensaient qu'à une chose, c'était faire le mal, faire le mal, faire le mal. Et Dieu n'a trouvé qu'un seul juste, c'était Noé avec sa famille. Et donc, il lui demanda de construire une arche, et il lui dit ceci, « Mais j'établis mon alliance avec toi. » J'établis mon alliance avec toi. Et Pierre, ici, l'apôtre, dans le passage que nous avons lu, compare l'époque du déluge et de l'arche et des eaux qui sont venues sur la terre au baptême, et Dieu dit « J'établis mon alliance ». Et le baptême concrétise notre engagement, notre acceptation de l'alliance de Dieu. Dieu veut passer une alliance avec nous. Dieu veut passer une alliance. Et quand on passe par l'acte de repentance, quand on accepte que Jésus vienne dans notre vie, qu'il pardonne notre péché, alors Dieu veut qu'on aille plus loin. Il dit « Moi, je veux concrétiser quelque chose de fort avec toi, je veux concrétiser une alliance ». Et ce baptême est l'engagement, la concrétisation, l'acceptation de l'alliance que Dieu veut passer aujourd'hui avec Vincent, avec Catherine. Jésus a donné lui-même cet ordre à ses disciples. On peut le lire dans plusieurs évangiles. Moi, j'ai retenu l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 19. Jésus lui-même dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Être baptisé pour devenir un disciple. Faites de toutes les nations les baptisants. Baptisé pour devenir un disciple, c'est quelqu'un qui suit les préceptes, qui suit les instructions de son maître. C'est un acte d'obéissance et d'engagement. Alors, si on résume déjà les quelques points, les quelques textes qu'on a pu voir ensemble ce matin, pour se faire baptiser, reconnaître que l'on est pécheur aux yeux de Dieu, croire au salut en Jésus-Christ, se repentir bien évidemment de son péché, avoir une bonne conscience envers Dieu, choisir de devenir un disciple de Jésus. Il est clair, quand on lit tous ces points, que seule une personne adolescente ou adulte, en âge de comprendre, en âge de s'engager pour Dieu, peut être concernée par le baptême biblique. Pour terminer, je ne voudrais pas être trop long. Alors pourquoi faut-il être plongé entièrement dans l'eau ? Tout simplement, Tout simplement parce que c'est le sens littéral du mot baptême dans le texte original en grec. C'est un mot, baptême, qui veut dire plonger, immerger. C'est le terme en grec qui était utilisé pour des navires qui étaient coulés, qui étaient au fond de l'eau, submergés. Donc vous voyez, il y a vraiment une notion d'être recouvert par l'eau. Donc c'est le sens du mot baptême dans le texte original en grec. Et dans les textes qu'on a lus, et vous pourrez, au travers les évangiles et les épîtres ou les actes des apôtres, vous pourrez le constater à plusieurs reprises, quand il est question de l'eunuque éthiopien dont on a lu le texte, il nous est dit qu'ils descendirent dans l'eau. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 23, il nous est dit ceci, « Jean aussi baptisait à Énon près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. » Donc voilà pourquoi on pratique ce baptême selon l'enseignement de la Bible. Dans quelques instants, Vincent et Catherine nous diront leur engagement, pourquoi ils ont pris cette décision, comment ils ont fait cette rencontre merveilleuse avec Jésus. Certainement, si vous êtes proches, comme le disait Robert tout à l'heure, ils vous en ont parlé, ils vous ont peut-être saoulé avec ça, mais je pense que c'est important de pouvoir témoigner publiquement, parce que le baptême, c'est aussi un engagement public. C'est de reconnaître qu'on est passé d'une situation sans Dieu à une situation avec Dieu. Et en apportant ce témoignage de transformation, c'est aussi apporter publiquement le témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc moi, je vais m'arrêter là, et puis je pense que dans quelques instants,